Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Bienvenue sur Europe 1, vous écoutez l'Équipée Sauvage, la grande compète opposant chaque après-midi les meilleurs journalistes de la rédaction et aujourd'hui, édition exceptionnelle. Puisque nous recevons une danseuse étoile que je vais vous présenter dans un instant, nos journalistes ne seront pas notés sur la simple qualité de leur travail journalistique, mais sur leur musicalité, leur rythme, leur placement, leur souplesse, leur pointe, leur pirouette, sans oublier leur raffinement.
Oh putain, ouais.
Oui, comme vous dites Eva, c'est pas gagné. Bonjour Eva Rock.
Bonjour Mathieu, heureusement que je suis en concours. Hein.
Vous avez failli être danseuse étoile à un
bien
moment,
sûr,
non
bien sûr.
Ça s'est joué à peu de choses, je crois.
Très peu.
Ouais, vous avez choisi la pole dance, finalement.
Exactement.
Une autre forme de danse.
Voilà.
L'Opéra de Nice a perdu une étoile, mais la France a gagné une formidable journaliste média. Tout à l'heure, vous nous direz ce qu'on regarde et ce qu'on zappe ce soir à la télé. Oui. Mesdames, accueillons donc notre invitée d'honneur cet après-midi, une vraie danseuse étoile qui va nous raconter les coulisses d'un métier qui génère bien des fantasmes. Bonjour Dorothée Gilbert.
Bonjour.
Vous êtes une de nos plus grandes danseuses étoiles à l'Opéra de Paris. Vous avez publié votre autobiographie Étoile, avec un S entre parenthèses, aux éditions du Cherche Midi. Le récit d'un parcours qui n'a pas du tout été un long fleuve tranquille. Et ça, c'est vraiment ce qui est fascinant dans votre trajectoire. On imagine souvent, moi personnellement, les danseurs et danseuses étoiles, on imagine que la grâce est tombée sur leur berceau et que dès tout petit, c'est destiné à devenir danseur étoile. Et on découvre que c'est 50% de talent, mais 50% de travail acharné surtout. Je ne sais même pas si c'est la bonne proportion d'ailleurs.
Oh, je dirais 80-20 plutôt même.
Ah, mais carrément.
Et 80 travail.
80
oui,
travail.
Oui. 80 travail.
Ça a vraiment été, ce n'était pas inscrit dans vos gènes du tout, quoi.
Non. J'avais une bonne coordination, mais j'avais beaucoup de défauts quand même.
Mais c'était quoi les défauts? Quels défauts on peut avoir et devenir quand même danseuse étoile pour les jeunes filles qui nous écoutent et...
J'étais pas très souple. J'avais pas un très beau coup de pied. J'étais pas très en dehors. J'étais pas super bien placée. Les lignes n'étaient pas très belles à regarder, en fait. Je savais tout faire. Un peu n'importe comment.
Oui, vous dites à un moment je savais tout faire, mais c'était pas joli, c'est ça?
C'est ça. En fait, c'est un peu comme le premier professeur que j'ai eu à l'école de danse a dit à mes parents: votre fille, vous pourriez pu être danseuse, mais il y a 100 ans.
Mais ça veut dire quoi, il y a 100 ans?
Ça veut dire
c'est pas très bien.
Bah, en fait, non, c'est pas ça. C'est que la technique a énormément évolué. Quand on voit des athlètes justement courir le 100 mètres il y a 100 ans et quand on les voit aujourd'hui, on voit à quel point c'est différent. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus fluide, les lignes sont plus belles, c'est plus beau à regarder. Bah, c'est exactement pareil pour la danse classique. C'est-à-dire que c'était pas assez beau, assez parfait dans la ligne, en fait.
Combien vous aviez eu en souplesse?
2/10.
Oui, on va y venir, Eva. On a deux heures pour évoquer notamment la partie bulletin de notes, parce qu'il y a dans ce livre, et c'est ça qui est fascinant, parce que beaucoup de livres sur la danse, ça c'est un peu à la gloire de la danseuse. Là, il y a les bulletins de notes avec quelques mauvaises notes. On va en parler. On va parler de ce livre, mais vous allez nous raconter l'envers du décor de l'opéra. Mais d'abord, je vous présente les forces en présence dans cette émission. Vous dites d'ailleurs, Dorothée Gilbert, que lorsqu'on a fait l'école de l'opéra, vous dites, je cite, on découvre très tôt la concurrence, la jalousie et la méchanceté. Vous n'allez pas être dépaysé cet après-midi. Bienvenue dans l'équipée sauvage. L'affrontement en deux manches des meilleurs journalistes d'Europe 1. Parmi eux, justement, une anomalie, un bug du système. Elle a à peu près le même esprit de compétition qu'un moine bouddhiste qui, une fois par semaine, descend de la montagne pour aller laver les pieds des pauvres dans la vallée. La dernière fois qu'elle a été méchante avec un collègue, c'était en 2004, quand Eva avait planqué un maroilles coulant sur son siège qui lui avait ruiné sa robe Isabelle Marant. Elle s'est exclamée « Oh, quand même, ce n'est pas très gentil !»
Mais j'avais tout donné ce jour-là, pourtant.
Eh oui, vous aviez tout donné. Bonjour Anne Le Gall.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ce qui est fou, c'est que malgré cette bonhomie inébranlable, vous êtes leader du classement général, comme quoi parfois la gentillesse paye. Cet après-midi, vous nous parlez d'une nouvelle forme de lutte contre la pollution, la lutte contre la pollution lumineuse.
Voilà, face à une danseuse de l'Opéra de Paris aussi brillante, je ne pouvais parler que d'étoiles et du recul de la nuit, puisque la nuit a reculé depuis 30 ans dans 80% du monde. Évidemment, en cause, c'est la pollution lumineuse. Et face à ça, il y a des villages, des villes, des communes qui ont une initiative. Ils se font labelliser village étoilé. C'est l'équivalent du village fleuri, mais
et
pour la
comment
nuit.
On le parce que moi, le petit village où je vais parfois en Normandie, je suis sûr qu'on peut avoir le label village étoilé. Parce qu'on voit tellement bien les étoiles.
Vous m'expliquez
comment on s'inscrit.
Vous allez être élu maire bientôt.
Ah, je pourrais, tiens, voilà une nouvelle carrière intéressante, Eva.
C'est intéressant. Dictateur en Normandie.
Dictateur d'un village de 300 habitants. Face à vous, Anne, quelqu'un qui, pour s'imposer dans cette émission, n'utilise pas du tout votre stratégie de la gentillesse. Pour l'emporter, il mise tout sur le vote de l'invité, qui, je rappelle, compte triple. À cette fin, il n'hésite pas à adopter la technique dite de la carpette flagorneuse. Technique qui consiste à lécher consciencieusement les bottes de l'invité et de s'astreindre à surtout ne jamais le contredire. Démonstration avec Thomas Dutronc jeudi.
Les vieux vinyles, ok, les années 70, c'est tout ça, mais aujourd'hui, quand on fait un vinyle, bon, il y a un côté snob parce que c'est enregistré. Il y a un truc, dis-moi si je me trompe, mais.
Non, jamais.
Bonjour Fred Goetti.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Mathilde Carpet-Flagorneuse. Vous êtes le directeur de Jazz Magazine et cet après-midi, en l'honneur d'une danseuse étoile, vous nous parlez d'une chanteuse étoile.
Oui, dans les années 90, les plus jeunes fans de la série Friends avaient découvert Big Yellow Taxi, c'est cette chanson dont je vais vous parler de Joni Mitchell, car cette merveilleuse chanson folk était au cœur d'un des épisodes. Mais avant ça, en 1970 précisément, Big Yellow Taxi fut un 45 tours à succès qui fit passer Joni Mitchell dans une dimension nouvelle. Sa musique devint notamment un objet de fascination pour, je cite, Joe, Bob et Herbie. Je ne cite que les prénoms pour entretenir un peu de suspense.
C'est trois stars, il faut deviner
ouais.
qui.
Ouais.
Bon, vous avez 10 minutes. Merci Fred de prendre mes données. L'équipe est sauvage peut démarrer.
Parentin, l'équipe est sauvage.
C'est donc la danseuse étoile Dorothée Gilbert qui nous accompagne cet après-midi. Il y a quelques mois, vous avez publié aux éditions du Cherche Midi un très bel ouvrage avec des très belles photos signées, je crois, de votre cher et tendre conjoint. On va feuilleter ce magnifique livre tout au long de ces deux heures. Un mot sur votre état d'esprit post-confinement. Comment ça s'est passé le confinement ? Alors, pour tout le monde, c'est compliqué quand on ne peut pas bouger, mais pour une danseuse étoile, ça doit être encore plus.
Oui, c'était assez difficile comme expérience. D'abord, on a très vite eu des cours qui ont été mis en place sur Zoom par l'opéra. Donc, en fait, on pouvait s'entraîner chez soi et avoir un cours quand même de danse régulier tous les jours. Ils nous ont fait livrer aussi dans un second temps, on est allé chercher des bouts de lino, vous savez, le tapis de danse oui. en fait, sur lequel on peut danser, où on peut mettre les pointes parce que, pour pas que ça glisse, parce que sur un parquet haussmannien, c'est pas évident de,
ah oui.
de faire des pointes. Donc voilà, donc bon, on s'entraînait dans 2 mètres carrés, quoi. Donc c'est assez frustrant. Déjà l'espace, le manque de voyage, le fait de... Bah justement, confinement. Le manque d'espace et on a envie de se déplacer. La danse, c'est ça aussi, c'est parcourir la scène à droite à gauche. Et là, on était restreint dans un petit...
Et puis, il y a des obstacles supplémentaires par rapport à une belle salle de danse. C'est-à-dire que là, les Legos que laisse traîner votre fille,
c'est
j'imagine
ça.
Que ça doit
ouais.
pas être simple. Quand on fait des points, tu tombes sur un Lego. C'est...
Ça, et puis le fait aussi que quand même, c'est quand même dur, les cours de danse, tous les matins, s'entraîner, se remettre en question, etc. Et que quand il y a les autres collègues avec nous... Il y a une sorte d'émulation et ça nous permet d'être motivés, d'avoir envie. Là, quand on est seul face à ses murs et à son mobilier, c'est pas forcément facile.
Mais alors, pardon pour cette question, mais moi, je pensais que vous aviez plus besoin de cours de danse au niveau...
On sait qu'elle s'entraînait plus ?
Si, vous entraîniez, mais que vous aviez pas besoin d'un professeur de danse, en l'occurrence.
Si, parce que ouais. le professeur, il nous donne des exercices, il nous donne des corrections, évidemment que... En fait,
mais le professeur, il danse moins bien que vous, c'est compliqué quand même de donner des cours à une danseuse étoile.
Non, mais en fait, il faut savoir que la perfection n'existe pas. Mm-hmm. C'est le chemin vers la perfection qui est intéressant et c'est vers jusqu'où on va pouvoir aller. Mais finalement, on n'est jamais parfait, on peut toujours s'améliorer, on peut toujours être plus en dehors, plus souple, avoir un plus beau travail de pied. Donc, en fait, on a toujours besoin de correction et de se remettre en question à la barre chaque matin, comme les petits élèves de 8 ans. Quoi.
La perfection
compris,
n'existe
Mathieu.
Pas, je le note, Eva, mais j'en avais déjà un aperçu avec vous. Si vous voulez mieux comprendre le monde de la danse classique et découvrir un parcours singulier, étoile est disponible aux éditions du Cherche Midi. Dorothée Gilbert est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, nous allons prouver à Dorothée que nous aussi, nous sommes de fins mélomanes. Eva a d'ailleurs eu dernièrement une relation avec...
René Utreger au piano, Pierre Michelot à la contrebasse, Kenny Clark à la batterie, et puis Barney Whelan au saxophone.
Une sacrée nuit. Comme elle ne s'en est pas tout à fait remise, aujourd'hui c'est Fred Goetti qui nous parle d'une chanteuse canadienne qui a inspiré Bob Dylan.
C'est Céline Dion ?
Presque, c'est Joni Mitchell.
C'est
même si Céline a certainement beaucoup influencé Bob aussi.
Europe 1, 16h, 18h. L'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h. Mathieu Noël.
Secouez vos neurones tout en frictionnant vos zygomatiques, c'est la mission quotidienne de l'équipe est sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1, sous le contrôle aujourd'hui d'une de nos plus fabuleuses danseuses étoiles, Dorothée Gilbert, avec nous pour évoquer son livre « Étoile, le parcours d'une battante qui n'a jamais baissé les bras ». À un moment, vous avez été tentée de baisser les bras, on va parler tout à l'heure des mauvaises notes, ça peut arriver même quand on devient au final danseuse étoile. Est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit « ça suffit quoi ».
Bah non, sinon j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui.
Jamais, mais il n'y a pas eu de phase
Jamais.
De découragement.
Mais en fait, oui, je me suis rendu compte justement quand j'ai écrit ce livre avec le recul qu'à aucun moment j'ai douté que je puisse y arriver. C'est étrange, hein. Pourtant, j'ai eu plein d'échecs, mon parcours n'a pas été très linéaire, mais j'ai jamais douté.
Est-ce qu'il est classique, votre parcours, par rapport aux autres danseurs et danseuses étoiles ? Ou est-ce que vous connaissez des danseurs étoiles qui ont toujours eu une trajectoire, qui avaient toujours les meilleures notes et,
Oui, j'en connais.
Ça existe aussi,
ouais.
Alors lui, il a souvent une bonne note, mais pas toujours. Et on dirait qu'il est en dents de scie. Voici notre premier concurrent du jour, Fred Goetti, un amoureux de la musique, mais aussi un amoureux tout court. Comme vous le confirmeront, toutes celles qui, comme Eva, ont visiblement eu la chance de passer une nuit avec lui, comme le laisse supposer cet enregistrement.
Oui, vas-y.
Ah là là, là. Le bruit du saphir qu'on pose dans le sillon.
J'adore.
Fred Goetti.
Dorothée, je suis désolée, hein. Vous avez compris le système de cette émission.
Oui, elle a compris, je pense.
Elle a compris que vous étiez là.
Que tu n'as pas vraiment passé une soirée, Fred Goetti, à lui dire mets-moi le saphir dans le sillon. Oui, on a compris. Fred Goetti.
Vous êtes vulgaire, c'est horrible.
Je ne fais que
parler. Non, c'est un bluesman. C'était dans double sens.
Comme ça. Bon, Fred, allez-y, vous nous racontez qui est Joni Mitchell.
Joni Mitchell, c'est une légende vivante, une chanteuse folk canadienne qui écrit et compose ses propres chansons en s'accompagnant à la guitare ou en s'entourant des plus grands jazzmen de la planète. Alors on rentre ses admirateurs et des artistes qui revendiquent son influence. Permettez-moi de vous souffler quelques noms, hein. Crosby, Stills, Nash & Young, Jimi Hendrix, Leonard Cohen, Madonna, Peter Gabriel, Björk, Diana Krall ou encore Prince, qui était totalement fasciné par Joni Mitchell. Mais il y a 50 ans donc, le nouveau 45 tours de Joni Mitchell venait de sortir, son titre, Big Yellow Taxi. They paved paradise, put up a parking lot with a pink hotel, a boutique and a swinging hot spot.
Mais c'est Janet Jackson, ça.
Il est très fort, vraiment. Alors là, bon,
c'est Janet Jackson.
Mais oui. La petite sœur de Michael, elle aussi, grande admiratrice de Joni Mitchell, avait effectivement samplé le refrain de Big Yellow Taxi. Ah. Beaucoup d'ailleurs crurent que cette voix aiguë était la sienne, mais non, c'était bien celle de Joni Mitchell. La preuve. Joni Mitchell. Un rappeur. Et Janet. Mais bien avant Janet, donc, Janet Jackson, un certain... allez, blind test. Vous allez vite reconnaître celui qui, dès 1972, avait adapté en français Big Yellow Taxi de Joni Mitchell. Ils ont tout pavé
pour faire le grand parc. Et... Joe Dassin.
Eh oui.
Joe Dassin.
Joe Dassin lui-même. Et de Quimper jusqu'en Chine. C'est toujours la même histoire, on ne sait ce qu'on a que quand il est trop tard. C'est toujours la même histoire, on ne sait ce qu'on a que quand il est trop tard. C'est pratique, c'est un peu comme si on avait les sous-titres. Alors, Big Yellow Taxi parle des ravages de l'urbanisation, de ces arbres que l'on coupait pour construire des grands parkings, de l'abus des pesticides, bref, d'un monde en péril. Je ne sais pas si Joni Mitchell connaît la reprise de l'inoubliable créateur de l'été indien, mais en revanche, je peux vous garantir qu'elle avait écouté celle-là. A big yellow bulldozer took away the house and land.
Lord, it always I go to show. Mon oreille absolue m'indique qu'il s'agit de Bob Dylan, évidemment, ou alors votre relance, je ne sais pas. En tout cas, j'ai trouvé, c'est Bob Dylan. Et alors là, avoir une reprise par Bob Dylan, c'est la reconnaissance absolue.
Certes, mais Joni Mitchell n'avait pas apprécié que Dylan change les paroles de son petit rock'n'roll écologique, comme elle disait. Et il arrive que sur scène, elle le fasse gentiment remarquer à son public, non sans malice, et en s'amusant même parfois à imiter sa voix. Écoutez. Bob Dylan wrote this verse. Late last night, I heard a screen door slam. Voilà, il est comme ça. And a big yellow jacket came and pushed down my house and pushed around my land. C'est magnifique. Génial. Et elle s'accompagne à la guitare. Écoutez, elle est seule, on dirait qu'il y a un orchestre avec elle. Ouais. Et elle swing comme n'importe quelle diva du jazz.
Et ça, on est en quelle année?
Là, c'est un petit peu plus tard, on est en 1997. Là,
et ça, c'est encore dans votre discothèque personnelle où on trouve ce live-là?
Ah, ça se trouve.
Ouais. Là, on va sur Spotify.
Je vous dirai au micro où le trouver. Oh oui, sur Spotify, vous trouvez ça sans aucun problème.
Elle a une voix hyper claire, je trouve. Enfin,
sa voix a évolué et descendue avec le temps. Au début, elle était influencée par John Baez, puis peu à peu, à force de fréquenter des musiciens de jazz, son phrasé a changé. Ah, j'allais oublier, excusez-moi. Parmi les admirateurs inconditionnels de Joni Mitchell, quelques pianistes de jazz et pas des moindres. Votre ami Keith Jarrett, Mathieu, Brad Meldo, qui ont tous les deux adapté des chansons au piano de Joni Mitchell. Et puis Herbie Hancock, qui a remporté le Grammy Award du meilleur album de l'année en 2007, toute musique confondue, avec son hommage à Joni Mitchell, River, The Johnny Letter. Et quelques années plus tôt, Herbie Hancock avait même invité Joni Mitchell à chanter l'une des chansons préférées d'Eva,
Le petit bonhomme en mousse, non
de notre invité. Qui a peut-être dansé dessus. Allez savoir. Summertime and the living is easy.
wish to jump in the car.
Danser là-dessus ?
Mais oui.
On peut danser sur rien aussi.
On peut danser sur rien, oui, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai qu'on peut danser là-dessus sur Summer Time. Oui, ça,
c'est magnifique.
Oui, je vous imagine. J'imagine moins Eva, mais je vous imagine plus Dorothée. C'est assez normal. Merci beaucoup, Fred Goetti. Eva, un mot sur Johnny Mitchell ?
Je préfère Patrick Fiori, je crois.
Ça s'entend,
voilà,
ça s'entend.
Voilà, bien sûr.
Europe 1.
C'est une des spécificités de l'équipe sauvage chez nous. L'invité ne se contente pas de répondre à nos questions. Il note également nos journalistes. Hier, Benabar a été extrêmement ferme. Dès que les chroniqueurs s'égaraient un peu, c'était la sanction.
Autrefois, on apprenait à faire péter la planète finance dans ces masters de finance, et peut-être qu'on est maintenant en train d'enseigner comment sauver le climat.
Fallait dire la planète, comme ça faisait une bonne chute, vous avez loupé votre truc là.
Ah oui, faire péter la planète finance et la sauver.
Ah mais je pensais que vous l'aviez fait exprès, c'est pas grave.
Non, j'ai pas fait exprès.
C'est bien de voir un peu le work in progress entre vous, comme ça, comment se fait l'émission.
Je pense que ça passionne les auditeurs, surtout.
Ouais.
À l'Azur, à l'Opéra de Paris, on peut compter sur Dorothée Gilbert pour être au moins aussi intraitable aujourd'hui. On va vérifier ça juste après les Red Hot Chili Peppers Scar Tissue sur Europe 1.
16h-18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, 2 heures de découverte généreusement saupoudrée de bonne humeur et en compagnie d'un invité qui cerne généralement assez vite l'esprit de notre émission, comme Benabar hier qui a été sérieux à peu près 17 secondes.
On entendait il y a quelques mois Michel Sardou dire qu'il en avait marre de chanter certaines chansons. Est-ce que vous, dans votre répertoire, des chansons que vous avez marre de chanter ?
De Michel Sardou ?
Aujourd'hui, on se faufile, les amis, dans les coulisses de l'Opéra de Paris avec la danseuse étoile Dorothée Gilbert qui se raconte dans Étoile, justement, aux éditions du Cherche Midi. Pourquoi vous raconter maintenant, alors que votre carrière n'est pas finie du tout ?
Bah oui, c'est vrai.
Pourquoi le timing ?
Le timing, parce qu'en fait, le Cherche Midi est venu vers moi en me disant « j'aimerais bien que vous écriviez un livre ». Et voilà, au départ, on était parti sur quelque chose de beaucoup plus lifestyle, des adresses, comment se maintenir en forme, des choses comme ça. Et puis finalement, je me suis dit que j'étais pas la meilleure personne pour écrire ce genre de livre.
Surtout quand on a une histoire comme vous, une trajectoire aussi intéressante, c'est quand même plus intéressant ça.
Je me suis dit que voilà, ça pouvait donner de l'espoir aux gens et puis de se rendre compte aussi que plein de chemins étaient possibles pour arriver à son but et je le raconte à travers mon histoire.
La danse, c'est pas votre premier choix. J'ai lu que c'était la batterie d'abord dans un premier temps. Et vos parents vous ont vite réorienté.
Oui, c'est idée ça.
Pour vous. Parce que la batterie, c'était pas possible.
En fait, j'avais fait un an de solfège au conservatoire avant de pouvoir choisir un instrument et j'étais arrivée dans les premières, donc je pouvais choisir l'instrument que je voulais.
La batterie.
J'avais choisi la batterie alors que tout le monde choisit le piano, évidemment. Les places sont limitées. En fait, j'avais cette énergie surtout.
Et cette rage de vaincre, on le découvre dans le livre. Vous étiez au conservatoire, à l'Opéra de Paris. Vous veniez de Toulouse.
Oui.
Vous aviez donc un petit accent que vous avez toujours conservé
un petit peu.
Et à 12-13 ans, j'ai lu que vous avez été enfermé un jour dans un placard, un casier métallique, par vos sympathiques consoeurs danseuses. Mmh. Et vous n'avez rien dit à vos parents parce qu'il fallait garder ça pour vous. Ça a dû être, ça a pas dû être simple quand même.
Quand on a 12-13 ans, c'est
dur. De vivre ça, c'est quand même très violent.
C'était assez violent. Après, c'était pas vraiment de la méchanceté. Je pense que c'était plus une blague, mais moi, je l'ai hyper mal pris quand même. Parce que aussi, il y avait pas mal de jalousie parce que j'étais externe et il y avait très peu d'externes à l'école de danse à cette époque-là. J'étais externe alors que je venais de Toulouse. Mes parents ont déménagé exprès pour moi.
Ça fait partie de votre réussite. Vous pensez que ça a joué un rôle énorme?
Évidemment. S'ils n'avaient pas été là, j'aurais pas pu prendre autant de cours que j'ai pris le week-end, par exemple, en plus de l'école de danse. Et puis, je pense que c'est important d'avoir une coupure, de rentrer chez soi, de revoir sa famille, de parler d'autres choses, d'avoir deux mondes quand même assez distincts pour avoir un équilibre, justement.
Les coulisses de la danse classique, c'est dans Étoile de Dorothée Gilbert, qui est notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, Anne Le Gall le sait, pour s'imposer dans la dernière ligne droite, l'anthologie des bisounours ne suffira pas. Il va falloir montrer les crocs. Être enfin impitoyable. Depuis quelques jours, je la coach en ce sens. C'est laborieux, mais ça vient. C'est le problème avec les gens foncièrement bons. Mais il y a des progrès. Par exemple, tout à l'heure, en antenne, vous me disiez que vous trouviez formidable qu'Eva ne se résigne pas et continue comme ça à chercher un mec.
Tout ça grâce à une libido débridée et malgré un âge avancé.
Oh oui, pas mal, pas mal. Allez, il y a tout de suite.
Europe 1, 16h, 18h, l'équipée sauvage. L'équipée sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Elle a triomphé sur la scène des plus beaux opéras du monde, mais cet après-midi, elle doit être sacrément intimidée de découvrir notre scène à nous.
Oh,
Elle est magnifique.
Oui, ça fait souvent cet effet-là, surtout la première fois. Dorothée Gilbert, étoile de l'Opéra de Paris, et notre équipière sauvage cet après-midi. Alors, on en parle cet après-midi, ce livre magnifique, Étoile, dans lequel vous racontez votre trajectoire. À l'âge de 24 ans, tout a failli s'arrêter. Un trou dans le pied, une fracture de fatigue du deuxième métatarse. Interdiction de poser le pied pendant 6 semaines. Mais ça va durer en fait beaucoup plus longtemps, pendant 6 mois. Comment on surmonte une épreuve pareille ?
C'est difficile, je dois dire. C'est difficile parce que, surtout que c'était ma première vraie blessure, donc je comprenais pas ce qui se passait. Je me disais, mais pourquoi mon corps maintenant, il me lâche alors qu'il a été mon plus fidèle compagnon pendant toutes ces années d'apprentissage. Et surtout, je faisais tout ce qu'il fallait pour que ça se soigne.
Oui, parce que vous avez fait le choix d'écouter les médecins et de vraiment faire attention.
Ah, oui.
Vous dites dans le livre que certaines ne font pas ce choix-là et poussent leur corps trop loin. Il y a des danseuses qui montent shootées de médicaments sur scène, il faut le savoir aussi.
Oui, ça arrive.
Et ça, c'est
arrive.
Une grave erreur parce que ça compromet la suite de leur carrière.
Bah oui et non, finalement, parce que moi, j'ai fait tout comme il fallait. Et puis, en fait...
elle est comme Anne Le Gall, elle n'a pas eu de chance, elle est toute gentille.
Mais c'est ça, je trouvais ça hyper injuste, en fait. Non, je trouvais ça très injuste. Je me disais, pourquoi moi, pourquoi maintenant, alors que justement j'ai toujours tout fait comme il fallait et je comprenais pas. Mais après, j'avais tellement envie de reprendre et j'avais tellement envie de redanser que je pense que la tête a fait aussi le chemin sur la guérison entre guillemets du corps, quoi.
Quand on a la chance d'assister à un ballet, on a l'impression que tout est facile, on se doute que la facilité est travaillée, mais par contre, tout est toujours parfait. On n'imagine pas ce qui se passe en coulisses. Ouais. Vous lui racontez que parfois en coulisses, c'est juste le bordel, en fait.
Mais
et
oui,
qu'il
oui.
faut remplacer quelqu'un à la dernière minute. Il y a tant de petites choses que nous, ouais. on ne voit pas, enfin, en tout cas quand on n'est pas spectateur assidu des ballets. Qu'est-ce qui ouais. se passe, par exemple, de plus fou en coulisses ? Qu'est-ce qui arrive ?
Oh bah, de plus fou, typiquement, quand j'ai dansé Cendrillon, mon partenaire il s'est blessé sur scène.
Pendant la représentation.
Donc, je l'ai vu quitter la scène. Moi, je rentrais peu après. Dans les coulisses, j'entendais la régie qui disait oui, il faut trouver quelqu'un, le remplacement, machin, etc., etc. Il y avait un autre danseur qui faisait aussi le rôle, mais qui faisait un autre personnage sur scène ce soir-là.
Donc il pouvait pas se dédoubler,
mais il a fait toute la première partie avec moi. Mais après, il y avait un grand pas de deux qui arrivait, où justement, pour l'histoire, ça pouvait pas être ce personnage-là qui faisait le pas de deux avec moi.
Quel cauchemar.
Le pas de deux commence où je suis sur un tabouret, mais sur le devant de scène, et je regarde le public. Donc je vois absolument pas ce qui se passe derrière moi, et le prince, donc le rôle titre, s'avance vers moi et me touche l'épaule, et je le regarde et le pas de deux commence.
Et là je savais pas.
En fait, j'étais assise sur mon tabouret, je me disais mais alors le pas de deux il dure à peu près 7 ou 8 minutes, et si je dois faire un solo de 7 ou 8 minutes improvisé, si j'ai pas de partenaire, je me disais mais comment je vais faire ? The show must go on, quoi.
Ouais.
Donc je commençais à me dire bon, est-ce que je fais ça ou est-ce que je sors de scène, je laisse la musique courir. Eh ben, il y a quelqu'un qui a posé sa main sur mon épaule, je me suis retournée et là j'ai vu le danseur remplaçant qui avait mis le costume, qui avait les cheveux en pétard comme ça, la trace de l'oreiller sur la joue parce qu'il était dans sa loge en train de dormir. Et je me suis dit, ah bah super, bah bienvenue, bonjour, on va danser. Donc, et là, on a commencé un pas de deux qui est quand même assez compliqué, sans avoir jamais répété.
Et ça a marché.
On était hyper attentifs l'un à l'autre pour justement essayer de...
C'est marrant parce que ça doit être un super souvenir, mais ça, moi, ça m'inspire un cauchemar. Je me dis que si j'étais danseur, ça pourrait être un cauchemar que je fais la nuit avant une représentation. C'est vraiment devoir improviser comme ça.
Non, les cauchemars, c'est plutôt, on ne se souvient plus la chorégraphie.
Ah oui,
on se perd dans les couloirs, ça m'est arrivé souvent.
On trouve plus la scène.
Ça m'est arrivé souvent d'imaginer à l'Opéra Garnier me retrouver dans les sous-sols, plus savoir où.
Oui. C'est ça les Toulousaines. Elles connaissent pas encore tous les chemins de notre belle ville de Paris. Face à vous, Dorothée, une journaliste qui est en pleine mue. Longtemps timide, réservée, voire disons-le prude, Anne Le Gall est en train de changer profondément. Plus agressive envers ses concurrents dans l'équipée sauvage, elle est également plus audacieuse dans sa vie privée, voire intime. Au grand étonnement de son mari, Monsieur Le Gall, qui doit désormais jouer des rôles dans les scénarios coquins qu'elle élabore pour remettre du piment dans leur vie de couple, comme samedi soir.
Quand je dirai vengeur masqué, tu mettras la zic.
Eh ben, ça part bien en cacahuète chez les Le Gall, hein. Comme quoi on sait s'amuser à ici les moulineaux.
Anne Le Gall,
vous êtes
je suis en train d'imaginer avec son masque.
Oui, on l'imagine, mais surtout qu'on le connaît. Anne Le Gall, vous êtes notre spécialiste environnement. On connaissait les villages fleuris, voici venir les villages étoilés.
Voilà, vous avez tous vu ces petits panneaux avec des fleurs, une, deux, trois, quatre, à l'entrée des villes.
Et souvent, et... c'est les villes où il n'y a pas grand-chose. Hein. Ils mettent un petit truc, village fleuri.
Non, bah, non, c'est un label.
C'est un label,
oui, d'accord,
mais sérieux.
Bon,
mais alors, peut-être que vous ne connaissez pas.
Là, je viens de réaliser, effectivement, on vient de percer en régie qu'il y a 80 000 villages labellisés, que je suis en train de perdre tous les auditeurs de ces villages. Non, c'est mais formidable. Oui. J'aime la France, formidable. J'aime les villages et j'aime les villages fleuris.
Voilà, et vous allez aimer les villages étoilés. Donc, c'est la même chose, mais avec des petites étoiles. Alors là, c'est un label qui existe depuis 10 ans, il est valable 5 ans et il récompense les communes qui valorisent non pas les ronds-points fleuris ou les parterres, mais qui valorisent un éclairage pertinent dans les rues. Donc ça veut dire un éclairage pas forcément toute la nuit. Et surtout pas sur tous les bâtiments et avec des lampadaires qui sont le moins nocifs possible pour la biodiversité.
Il y a des lampadaires qui sont moins nocifs que d'autres ?
Il y a d'énormes différences. Alors là, je l'ai appris en discutant avec Anne-Marie Ducroux, qui est la présidente de l'Association nationale de lutte contre la pollution lumineuse. Alors, un lampadaire est très différent selon sa hauteur, sa forme, le fait qu'il ait un capot dessus ou pas. Donc le bon lampadaire, c'est le lampadaire pas trop haut, qui a un verre plat pour pas trop diffuser la lumière, qui a un capot pour pas éclairer le ciel parce que ça perturbe les oiseaux et les insectes, et qui a une lumière plutôt jaune-orangée au lieu de blanche ou bleue, parce que ça c'est très agressif. Parce que l'enjeu, c'est vraiment de respecter la biodiversité. Les premières victimes de la pollution lumineuse, ce sont les insectes. Les insectes.
Ils adorent ça, les insectes. Ils viennent sur le truc et viennent
de se retourner. Justement, il y a un effondrement de la population d'insectes depuis plusieurs dizaines d'années. Et la pollution lumineuse, c'est la deuxième cause de mortalité des insectes après les pesticides et les insecticides. Il y a les oiseaux aussi qui peuvent être totalement perdus, déboussolés par des lumières, parce qu'ils s'orientent avec les étoiles, les oiseaux, quand ils migrent. Et du coup, ils perdent leur trajectoire, ils peuvent être perdus. Et il n'y a pas que les oiseaux qui sont perturbés. Anne-Marie Ducroux m'a expliqué que même les poissons pouvaient être très perturbés.
Les poissons.
Par exemple, un saumon dans la Loire, il a environ 1000 km pour aller dans l'Atlantique se reproduire, et sa survie en dépend. Eh bien, il doit traverser tous les obstacles, c'est-à-dire qu'il a déjà des prédateurs naturels, il a des obstacles physiques avec des barrages, mais maintenant il y en a partout, c'est-à-dire que vous avez des ponts dont les arches sont éclairées toute la nuit, en rose, en jaune, en bleu, en vert, etc. Eh bien, pour certaines espèces, c'est totalement infranchissable.
Et tous les animaux nocturnes, par ailleurs, sont perturbés par cette pollution. Les Français en prennent conscience, il y a 80% de la population française qui est aujourd'hui favorable à l'extinction des éclairages publics la nuit. 12 000 communes le font déjà.
Oui, je pensais juste c'est un problème en voiture quand même quand c'est pas éclairé. Bon, on a nos phares, mais c'est parfois un
ah
peu.
Ah voilà, vous avez des phares sur la voiture.
Pour la sécurité des piétons.
La sécurité des piétons.
Oui,
exactement.
Mais il y a des systèmes d'éclairage automatique présence qui permettent un éclairage efficace. Alors on peut aussi faire des économies d'énergie. C'est pas que un motif écologique. Il y a l'éclairage public en France, c'est 2 milliards d'euros par an. Et donc ce label permet aussi de faire des économies pour les communes. Pour l'édition 2020 donc de ce village étoilé, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 30 septembre, Mathieu.
Et comment on fait ?
La date a été décalée à cause du confinement. C'est un dossier d'une douzaine de pages qu'il faut remplir et on vous donne un diagnostic. C'est les communes qui déposent des dossiers. Et voilà, et donc vous avez après 1, 2, 3, 4, 5 étoiles en fonction
on
de votre performance.
Il y a plein d'étoiles. J'ai jamais vu un endroit où il y a autant d'étoiles que chez moi.
Et ben voilà, donc voilà, jusqu'au 30 septembre, vous
allez
sur le site de l'ANPCEN.
Il n'y a pas d'argent à gagner une fois que vous avez le label.
Mais il n'y a que vous qui êtes vénal, moi c'est pour la beauté du geste.
Voilà, c'est la notoriété.
Merci Anne.
Même Dorothée Gilbert, elle ne croit pas.
Et vous transmettrez nos amitiés à votre époux.
C'est Don Diego de los Galapagos.
Ouais, sinon, quand il n'est pas déguisé, c'est Damien. Aujourd'hui,
on va l'appeler comme ça.
Aujourd'hui, Eva, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est qu'il n'y aura pas de quiz.
Ah, génial.
La mauvaise, c'est qu'il est remplacé par un concours d'entrechats entre vous et Dorothée Gilbert, danseuse étoile à l'Opéra de Paris.
Ah, merde.
Bien malin, celui qui pourra deviner l'issue de cette confrontation. Et puis après, on fera un petit quiz quand même. À tout de suite.
Europe 1, l'équipe est sauvage. 16h, 18h. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Après des mois de disette, en cette fin de saison, c'est devenu pour Eva une véritable obsession. Oui, Anne, vous qui êtes très proche d'elle, vous le savez, Eva est en quête.
En quête d'un mal.
Non, pas aussi, mais surtout en quête d'une victoire dans le quiz qu'il oppose chaque jour à l'invité et duquel elle ressort souvent gros Jean comme devant, enfin plutôt grosse Jeanne, comme je ne connais pas l'équivalent féminin de cette expression. Alors mesdames, si vous êtes prêtes, je vous propose de passer au quiz. Dorothée Gilbert, pour le quiz du jour, nous allons faire un questionnaire lexical croisé. Le mot est compliqué, mais la règle est simple. Je vais donner des mots à Eva Rock. Elle devra dire si oui ou non ces mots appartiennent à la danse classique. Je ferai pareil avec vous, Dorothée, et vous devrez me dire si les mots que je vous donne sont niçois ou non, puisqu'elle est niçoise. À chacun sa spécialité.
Si vous, je ne sais même pas.
À chacun sa spécialité.
Là, ouais. Oh oui, on se fait des gestes.
Non, ne trichez pas. Collusion entre l'invité et Eva Rock.
On va essayer. En tout cas, avec les mots de la danse. On va voir si j'ai. Si
bah, Eva, on commence avec vous. Vous, c'est pas la danse.
Oui, c'est la danse.
Exactement. J'ai oublié les règles de mon propre quiz.
C'est mieux dans l'autre sens, en fait. On va être meilleur.
Eva.
Oui.
Si je vous dis la gargouillade, c'est de la danse classique ou c'est un plat niçois?
Je dirais la danse classique.
Réfléchissez un petit peu.
Je dirais la danse classique.
La gargouillade, vous voyez ça,
la danse classique,
l'élégance.
C'est pas un mot niçois, donc c'est la danse classique.
Bien joué, c'est la danse classique. C'est un saut de chat avec de petits ronds de jambes, c'est ça.
C'est exact.
Voilà. Sachez, Dorothée, qu'après l'émission, je vous ferai en privé une petite gargouillade.
Oh.
Dorothée Gilbert. Quelle actrice.
Avec plaisir.
Madame est actrice aussi. Dorothée Gilbert, si je vous dis, il va falloir le débourrer. Est-ce une expression niçoise?
Apparemment, non.
Eva, le génial concepteur de ce quiz, Sébastien Bourdin, n'avait pas pensé au cas où Eva fait des signes à l'invité. Ça n'a pas été pensé en amont.
J'ai fait un signe, alors, je ne sais pas.
Effectivement, ça n'a rien à voir. Dans le milieu hippique, c'est dresser un jeune cheval, tout simplement. Eva Rock, si je vous dis le sisson, c'est de la danse classique ou de la charcuterie niçoise?
Mais comment vous l'écrivez? Ah voilà, vous l'avez mal prononcé.
Pas du tout. Je suis féru de classique et de ballet. Si je vous dis la sissonne, la sissonne, danse classique ou charcuterie.
J'ai eu un petit doute,
niçoise.
Mais non, c'est la danse classique.
La danse classique, vous
mais
êtes
oui.
sûr de votre réponse?
Mais bien sûr.
C'est la première fois qu'on a des bonnes réponses dans le quiz. Oui, c'est une bonne réponse. C'est également un saut, on se propulse de ses deux pieds, on se reçoit sur un seul, c'est ça?
C'est exact.
On peut faire une sissonne retirée ou une sissonne arabesque. Sachez personnellement, Dorothée, que je suis meilleur dans la sissonne arabesque. Dorothée Gilbert, si je vous dis un bastardon, est-ce oui ou non un mot niçois?
Ça pourrait, oui. Je n'ai pas regardé.
Toi, tu vas perdre par élimination.
Je sais que je vais perdre.
Tout simplement. Oui, c'est niçois. C'est quoi, Eva?
Eh bien, ce que j'allais vous dire, c'est que je ne sais même pas ce que ça veut dire. Un bastardon, ça va être quelqu'un qui se bat, non?
C'est un petit bâtard.
Oui.
Tout simplement. Vous pouvez employer ce mot, si ça vous fait plaisir,
parlant,
à mon égard.
Oui.
Et Baroc, si je vous dis le demi-castor, c'est de la danse classique.
Non.
Ça n'a rien à voir.
Elle peut vous induire en erreur.
Elle peut vous induire en erreur.
Oui, elle peut m'induire en erreur, mais
le demi-castor.
Vraiment, non. Non.
Ben, je sais pas, le demi.
Non. Et le trois quarts de l'outre aussi, et j'en sais rien. Vous racontez n'importe
c'est
quoi.
C'est pas tellement aérien, bon. Un castor. Ouais.
Alors attendez, on va corser les choses. Ben, qu'est-ce que ça veut dire?
Un demi-castor?
Oui.
J'en sais rien.
Elle n'en sait rien. Donc ce n'est pas gagné. C'est une mauvaise réponse. Vous deviez connaître la réponse. C'est une courtisane de second ordre, une femme de mœurs légères. À l'origine, le demi-castor était un chapeau d'homme où le poil de castor était mélangé à une fourrure moins chère.
Ah oui.
Et voilà, comme ça, vous vous coucherez moins bête, même si ça ne sert à rien. Dorothée Gilbert, si je vous dis avoir la bouffaïs, est-ce oui ou non une expression niçoise?
C'est tellement connu ça.
Appelez-moi le responsable du
quiz.
Bonne réponse. C'est niçois. Qu'est-ce que ça veut dire, Eva?
Ça va un peu la chaleur, quoi. Un peu. Voilà.
Citons l'humoriste Mado la niçoise. Peu cher depuis que ma femme n'a plus ses affaires. Tous les mois, elle a plein de bouffailles.
C'est Noël Perna, Mado la niçoise. Voilà.
Ah oui, mais c'est aussi Mado la niçoise, son personnage. Alors, qui remporte ce quiz? C'est évidemment Dorothée qui remporte le quiz. Encore une défaite pour Eva qui, même en magouillant, n'arrive pas à s'imposer. Dorothée Gilbert, on revient sur ce livre magnifique qui retrace votre parcours, Étoile, aux éditions du Cherche Midi. Ce que j'ai beaucoup aimé personnellement, c'est que ça donne un message aux jeunes qui est clair. Danseur étoile, ou dans tous les métiers, le talent ne suffit pas, le travail prime. Et vous avez mis, pour nous montrer tout ça, vos bulletins de notes. Alors ça, j'ai trouvé, c'est génial. Je les ai lus avec beaucoup de gourmandise parce que dans ces bulletins de notes, il n'y a pas que des 9 sur 10, 10 sur 10, très bien. Il y a des 2 sur 10, des 5 sur 10. Comment on vit ça quand on travaille comme ça au plus haut niveau et qu'on a des retours et qu'on a des commentaires qui ne sont pas parfois exceptionnels? Comment on fait pour ne pas se décourager et se dire « je m'en fous, je vais être dans ces étoiles
» On se dit « je travaille encore plus ». C'est vrai que ça fait quand même ça fait mal au cœur quand on reçoit des bulletins de notes comme ça. Oh. Maintenant, comme je disais pas vraiment la vérité à mes parents, je leur disais oui, mais note, voilà, je leur disais tout se passait bien, mais la meilleure note, c'est juste un point au-dessus de moi, ils notent juste très sévèrement, comme ils y connaissaient absolument rien, voilà. Donc je m'en persuadais, je pense un peu aussi.
Et finalement, comme c'est la méthode Coué, vous avez dit, je vais y arriver, tout va bien en fait.
Un peu.
Et alors, on finira là-dessus. Je ne sais pas si vous l'avez retrouvé, cette prof ou ce prof. Quelques progrès dans le placement, mais il faut encore plus. Eh oui, Dorothée, ouais. Je vous le dis souvent quand je vous vois à l'entraînement. Depuis que j'ai lu son autobiographie, j'ai moi aussi à cœur de m'améliorer, surtout sur les pirouettes, mon point faible. Dorothée Gilbert, passe l'après-midi sur Europe 1. Pirouette, cacahuète, la plus dure de toutes les pirouettes.
C'est les roulades aussi.
Les roulades, ça, je suis bon en roulade. Tout ce qu'elle a appris de l'amour, c'est Benoît Poulvord qui le lui a enseigné.
L'amour laisse comme une traînée de soufre derrière lui, comme une odeur qui traîne, et que malgré tout, dès que tu rencontres quelqu'un, tu sens, un peu comme quand tu vas pisser et que tu sens tes doigts.
C'est probablement pour ça qu'elle a fait le choix du célibat, situation qui permet à Varrock d'avoir plein de temps pour regarder les programmes télé. La sélection d'écran des vases, c'est juste après Alain Souchon, un terrain en pente sur Europe.
L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Dorothée Gilbert, la reine de la danse classique française, est avec nous cet après-midi pour son autobiographie Étoile au Cherche Midi. Dorothée, est-ce que la vie de danseuse paraît si exigeante? Est-ce qu'on a le temps pour regarder un petit peu Netflix le soir, se taper des séries, du binge-watching comme on dit, ou même ça on n'a pas vraiment le temps, quand on dort quand on a fini la journée de travail?
Non, on a le temps évidemment. Après, c'est sûr qu'il faut avoir quand même une hygiène de vie assez stricte, parce qu'avec l'âge on récupère moins bien. Et si on ne veut pas être trop crevé le lendemain pour toute la journée de répétition, il ne faut pas se coucher...
On ne peut pas se faire tout House of Cards d'un coup dans la nuit, quoi.
Voilà, on ne peut pas se coucher trop tard, quoi.
Alors, d'autant qu'on essaye, et vous essayez aussi d'avoir une vie sentimentale, savez-vous que selon une étude d'Oxford, on passe désormais 17 minutes par soir à s'engueuler avec son conjoint avant de réussir à choisir ce qu'on va regarder sur les plateformes? Tellement le choix est immense. Ouais. Heureusement, Dieu, dans sa mansuétude infinie, a créé Eva.
Mais c'est notre tranquille, là.
Qui nous guide avec sa chronique 17 minutes de gagner.
Mais alors, honneur au spectacle vivant, en votre présence, Dorothée Gilbert, avec deux choix ce soir. D'abord, France 2 diffuse la cérémonie des Molières. Je voulais vous en parler parce que c'est extrêmement important. C'est une cérémonie un peu particulière cette année, alors que les théâtres rouvrent à peine leurs portes. Un public restreint pour cette remise de récompenses, des statuettes qui pourraient revenir. Écoutez bien à Alexis Michalik, Mathilde Amé, Isabelle Carré, Elsa Zilberstein ou encore Bérangère Krief, que des artistes venus dans l'équipe sauvage.
Bam, un peu d'autopromo, tu as hasard ou coïncidence?
Je ne crois pas. Donc, c'est ce soir à partir de 21h sur France 2. Et puis, que nous soyons chanteurs ou pas, je vous propose de pousser un peu la chansonnette.
Allez-y.
Comme ces deux-là, vous allez me dire de qui il s'agit.
Alors voilà, Clyde a une petite amie.
Un nom d'allié ?
Elle est belle et son prénom c'est...
Bonnie. À eux deux, ils forment le gang Barrow.
Vous n'avez pas reconnu la voix masculine.
Pourquoi
vous le connaissez très bien. Exactement. Élise et Moon. Et oui, c'était Élise et Moon et Nolwenn Leroy pour cette reprise de la chanson de Gainsbourg. Alors, c'était le temps d'une émission. C'est un extrait qui est à retrouver dans une nouvelle série de programmes courts d'une vingtaine de minutes chacun, qui s'appelle We Love Chansons Françaises et qui est à retrouver sur France.tv. C'est la plateforme de France Télévisions. Ça vient d'être mis en ligne. C'est vraiment la chanson française revue par chapitre. Alors, les chapitres, c'est par exemple les chansons qui mettent le feu, la playlist Mouchoir et Peau de glace. J'adore celle-là. Ou encore Back to les années 80. À chaque fois, c'est vraiment les passages télé. Alors, la plupart du temps, ce sont des émissions qui étaient présentées par Daniela Lombroso, parce que c'est un programme court qui est produit par Daniela Lombroso. Donc, on est toujours mieux servi par soi-même. Voilà.
C'est
le tour.
Petit tacle à Daniela ?
Non, mais elle a raison. En même temps, je pense
pas,
que pour des histoires
ça,
de droit.
C'est complètement
non, mais pour des histoires de droit, bon, je pense que c'est comme ça. Non, mais parce que c'est un peu surprenant de voir que des émissions présentées par la même personne.
Alors que
des émissions
vrai.
De variété.
Enfin, Michel Drucker est là depuis des années, on l'embrasse.
Voilà, mais vous ne le verrez pas. Vous le verrez pas en l'occurrence. Et le tout est commenté avec humour par Alex Vizorek. Alors au chapitre des duos improbables, comme on vient d'entendre Élise Moon et Nolwenn Leroy, vous allez entendre aussi Joey Starr et Nicoletta. Alors je vous recommande parce que c'est vraiment, mais c'est remarquable. Christophe et les bébés brunes, Gérard Darmon avec Zazie. Et puis, là c'est pas un duo, c'est un trio. Trois femmes, trois voix pour cette chanson. Que vous les reconnaissez, ces voix de femmes.
Et Brigitte ?
Il y a Brigitte, exactement. Le vieux Brigitte. Et il y a Nicoletta, exactement.
J'aurais absolu. Diagnostiqué très tôt à mon entrée au conservatoire.
J'aime bien vous donner mes copies de chronique. C'est un très beau moment télé qui est à revoir. Dans ce programme court qui s'appelle We Love Chansons Françaises. C'est un programme vraiment à picorer en chantonnant. Et c'est sur France.tv. C'est vraiment bien foutu.
Voilà. Picorons avec vous, Eva. Merci pour ces choix télé.
Europe 1.
Une première manche arrive à son terme dans l'équipe sauvage. Fred Goetti et la désormais fielleuse Anne Le Gall vont laisser leur place à deux nouveaux concurrents.
Qui aiment s'accoupler en public.
Peut-être, mais c'est leur choix, n'allez pas trop loin non plus. Avec Emmanuel Dutheil et Virginie Fulpin, nous allons évoquer la réouverture des parcs d'attractions et la lutte des classes dans le monde du tennis. À tout de suite.
16h, 18h, l'équipe sauvage sur Europe 1.
L'équipée sauvage sur Europe 1.
16h-18h,
Mathieu Noël.
C'est l'heure de la pause pour nos fiévreux champions. Deux nouveaux concurrents vont s'affronter dans l'arène surchauffée de l'équipée sauvage. On va évoquer la réouverture des parcs d'attractions. On va parler lutte des classes dans le tennis, mais aussi révolution dans vos assiettes avec une spéciale recette minceur pour bien préparer l'été.
La révolution du saucisson est en marche.
Et puis bien sûr, on continue notre balade dans les coulisses de l'Opéra de Paris avec notre invitée, la danseuse étoile Dorothée Gilbert, en espérant qu'on apprenne plus sur son parcours que sur le mien, parce que parfois dans cette émission, bien, l'invité me piège.
Les masters, c'est ce qu'on fait en toute fin de cursus scolaire.
Oui, ou je te remercie, j'en ai un, c'est bon.
Non, mais il y a des gens qui savent pas, Mathieu, mais hé, égoïste.
Il y a un master de quoi ? Un master de quoi ?
Hein, j'ai fait une école d'études.
Oula, ça se voit que tu mens, putain, ça se voit.
Tu m'as bien grillé, Benadar. Bon, allez, entendez-vous ce doute maintenant ? C'est le carillon qui nous indique qu'il est 17h sur Europe 1.
Europe 1, 16h-18h, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipée sauvage, la grande battle des journalistes d'Europe 1, avec cet après-midi la danseuse étoile Dorothée Gilbert qui se raconte dans Étoile, disponible aux éditions du Cherche Midi. Dorothée, vous êtes l'arbitre aujourd'hui de notre compétition, bienvenue donc dans Danse avec les Brels. Quatre journalistes, une seule couronne de chroniqueur du jour, qui sera élu journaliste étoile, qui au contraire verra son contrat réexaminé par la direction d'Europe 1. En gros, comme le simplifie souvent Eva, pour nos concurrents, c'est la gloire
ou pas l'emploi.
C'est un résumé assez tragique mais assez juste. Avec nous dans cette deuxième manche, il sait qu'ici, pour l'emporter, il faut avant tout une chose.
Du cul. Bah c'est vrai.
Non, bosser, Emmanuel. Bosser. Emmanuel Dutheil, vous êtes le chef du service économie d'Europe 1. Hiérarchiquement, vous êtes donc un peu comme un danseur étoile au sein de la rédaction.
Ah oui, puis avec tant de grâce.
la comparaison est belle. Des responsabilités et un statut prestigieux qui n'ont pas érodé votre âme d'enfant, puisque vous nous parlez aujourd'hui de la réouverture des parcs d'attractions.
Bon, quel cliché. Vous aimez pas aller dans un parc d'attractions, vous ?
Bah, disons que moins que quand j'avais 8 ans, quoi. Mais
il y a des parcs d'attraction pour adultes, sans parler de sexe, mais...
Le mec qui se tire une balle dans le pied direct, quoi. Alors Emmanuel, racontez-nous, parlez-nous des parcs d'attraction pour enfants, déjà, pour commencer.
Parce que, ça y est, on sait que Disneyland va enfin rouvrir le 15 juillet, et je vais vous expliquer en quoi les parcs d'attraction font aujourd'hui vraiment partie intégrante de notre culture. On est l'un des pays au monde, après les États-Unis bien évidemment, qui a le plus de parcs d'attractions.
Ah ben ça, par exemple, je ne savais pas du tout. Je ne savais pas du tout qu'on avait la culture.
Quelque chose, rien que dans un teasing.
Ah, vous n'êtes pas chef de service pour rien. Ça, c'est vrai. Face à vous, Emmanuel, les parcs d'attractions, sa fille en rêve, seulement voilà, maman est radine. Alors cet été, ce sera plutôt atelier pâte à sel.
Bon, c'est pas triste la pâte à sel.
Non, c'est méga fun même. Bonjour Virginie Culpin.
Bonjour Mathieu, je vais me traîner ça longtemps, je crois.
Alors, la pâte à sel, ça va être votre boulet. Vous êtes l'éditorialiste sport d'Europe 1 et cet après-midi, on parle tennis, ou plutôt lutte des classes dans le tennis. De quoi s'agit-il ?
En fait, vous savez que l'US Open va avoir lieu, finalement, c'est décidé fin août, début septembre. Et ça nous montre à quel point les meilleurs du monde et les autres ne sont pas traités de la même manière. Parce que vous savez qu'avec la pandémie, c'était un peu compliqué à organiser. Au départ, l'US Open voulait qu'il y ait très peu de personnes, donc empêchait les joueurs de venir avec beaucoup de staff. Les meilleurs ont dit non. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On se débarrasse des plus faibles.
Ah bah oui, ah,
c'est pour qu'il y ait moins de monde. Oui, oui, c'est
le
aussi cruel que ça.
Et surtout le monde du sport. Alors, une virée à l'US Open avec Virginie Philpin, ou bien une séance de Space Mountain dans les bras musculeux d'Emmanuel Dutheil, le sosie approximatif d'Harry Potter quand il met ses lunettes. Quel sujet aura gain de cause ? Vous votez via Twitter. La réponse tombera juste avant 18h. Mais là, tout de suite, Eva, qu'est-ce qui se passe ?
Bah avec Sébastien Bordeneuf, qui est notre producteur, on fouille un peu les réseaux sociaux pour proposer tous les jours ce qu'on appelle un petit florilège. C'est un mix de deux séquences avec aujourd'hui, nos amis de Groland et une énième réforme des rythmes scolaires, vous avez bien écouté. Et puis le roi des concerts sur les réseaux M, alias Mathieu Chédid, qui vient avec un groupe du Rajasthan et c'est étonnant.
Donc je vais inviter le groupe Doad, donc c'est quatre frères. C'est un groupe du Rajasthan. C'est vraiment les ambassadeurs de la culture du Rajasthan dans le monde entier. Ils vivent en plus en France, on a de la chance.
Cette semaine vient d'être mise en place dans notre présipauté la 650e réforme des rythmes scolaires. Les spécialistes groenlandais sont cette fois unanimes.
Nous avons bien observé les hiboux et nous sommes persuadés qu'à l'instar de ces animaux nocturnes, les élèves travailleront mieux la nuit et sans lumière.
22h30, la première soirée d'école commence pour Kevivine.
Macho, macho, macho.
Voilà, Mathieu Chédid avec un groupe du Rajasthan, et oui, et puis nos amis de Groland et cette énième réforme des rythmes scolaires.
On félicite Sébastien Bordenave pour ce florilège. Dorothée Gilbert, vous êtes avec nous pour ce livre Étoile, vous racontez votre carrière. Si je vous dis 42 ans, à quoi ça vous fait penser, 42 ans ?
À la retraite.
Voilà. On précise tout de suite, ce n'est pas votre âge du tout aujourd'hui, hein, mais c'est une date.
Dans pas si longtemps.
Oh, vous avez 36, non ?
Oui, bientôt 37. Bah, 5 ans, c'est rien, non ?
Oui, enfin, vous avez encore de belles années de danse devant vous.
Oui, oui.
À 42 ans, on est obligé d'embrocher les pointes, c'est fini.
Oui, oui.
Mais vous pouvez continuer à danser dans une autre compagnie ?
Bien sûr, enfin, une autre compagnie ou certains spectacles comme ça, parce qu'être engagé dans une compagnie à 42 ans, je pense que ce n'est pas forcément ce que les directeurs de compagnie recherchent. Mais,
Et vous y pensez à cette étape des 42 ans ?
Bah évidemment, ouais. Évidemment, c'est difficile de se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire alors qu'on a été passionné par la danse depuis le plus jeune âge. Qu'est-ce qui va pouvoir nous passionner autant après ? Est-ce qu'on est obligé de vivre encore d'une passion ou est-ce qu'on peut juste faire autre chose sans être forcément passionné ? Plein de questions.
Dont vous avez déjà des réponses ou pas du tout ?
Quelques-unes,
ouais.
Sur tout ce que je ne veux pas faire. C'est déjà ça.
Oui, bah oui, par exemple.
Je ne me vois pas être professeur ou maître de ballet à l'opéra, continuer dans la même maison. Je me dis que 42 ans, c'est jeune aussi, et pourquoi pas faire complètement autre chose.
Pourquoi pas de la radio ? Vous m'avez l'air assez à l'aise. Si vous aimez la danse classique, mais aussi jouer au tennis, manger cru et faire des tours de manège à Disneyland en criant
«
Ne bougez pas !»
Europe 1.
Ça serait idiot. Évidemment que c'était du taille. Ça serait idiot. Surtout, Eva, qu'on va s'envoyer en l'air.
Ah ouais.
Ah, pas comme ça, Eva. Dans un parc d'attractions. Car ça y est, les parcs d'attractions rouvrent. Emmanuel Dutheil a enquêté sur un de nos loisirs qui est aussi un énorme enjeu économique.
Europe 1, 16h-18h. L'équipe est sauvage. 16h-18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
C'est la première fois et sans doute la dernière que nous recevons une danseuse étoile dans l'équipe est sauvage. Dorothée Gilbert avec nous. Vous, on plonge dans l'univers d'habitude assez secret du ballet et de l'Opéra de Paris avec ce livre Étoile au Cherche Midi, le récit d'une passion mais aussi d'une lutte pour atteindre les sommets. Est-ce que lorsqu'on est sacré danseuse étoile, ça y est, on considère qu'on est au sommet, on sent qu'on ne peut pas faire mieux, ou bien comme Pavarotti, ça m'avait beaucoup marqué dans un reportage. Pavarotti, on lui disait, mais vous êtes le plus grand chanteur au monde. Il dit, oui, je chante pas mal, je chante bien, mais la nuit, dans mes rêves, je m'entends chanter parfaitement. Et j'y arrive jamais. Est-ce que quand on danse à un si haut niveau, on rêve toujours de faire mieux ou on voit des gestes qu'on n'arrive pas à faire ?
Bien sûr, et c'est justement ça qui fait qu'on continue à s'améliorer, qu'on a toujours envie de travailler, et qu'on a toujours envie de... Comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment une quête de perfection. C'est-à-dire que la perfection n'existant pas, on peut toujours faire mieux.
Et c'est ça qui définit les étoiles, je pense, en vous écoutant. C'est-à-dire que parmi tous les excellents danseurs, ceux qui sont obsédés par la perfection finissent, enfin, s'ils ont les qualités pour, étoiles.
Oui, il y a ça. Puis il y a aussi quelque chose d'assez injuste. Hein. Il y a le charisme, comment on prend la lumière. Est-ce que tout d'un coup, on remarque quelqu'un en scène ? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on ne peut pas travailler. Hein.
Oui, et là, sur les photos dans le livre, on comprend effectivement que la lumière, vous la prenez assez bien. Lui, Dorothée, tout petit déjà, il rêvait de devenir un jour chef du service économique et social d'Europe 1. Il a bossé dur et son rêve est devenu réalité. Mais Emmanuel Dutheil, vous avez su conserver votre âme d'enfant. C'est pourquoi vous nous parlez cet après-midi de la réouverture des parcs d'attractions vous-même. Je crois que vous avez été très marqué par votre expérience de Space Mountain.
Ça, je vais monter et descendre la bourse d'un coup d'un seul.
Oui, l'image est belle. Emmanuel Dutheil, les parcs d'attractions, on est fan en France.
Ouais, c'est bien, je suis vachement crédible pour commencer ma chronique. Vraiment. Le mec est bien en place.
Solide sur vos appuis.
Vous dites que vous allez voter pour moi parce que tout ça est très très crédible. Mais j'ai envie de vous parler de Disneyland parce que Disneyland va rouvrir le 15 juillet, on l'attendait tous. Alors pas question, attention, hein, de venir sur un coup de tête, va falloir obligatoirement réserver à l'avance son billet. Le nombre de visiteurs sera limité pour répondre bien évidemment aux contraintes sanitaires. Alors si vous aviez déjà réservé pour cette période, rassurez-vous, votre billet reste valable. Donc Mathieu, vous pouvez emmener votre fils si vous avez déjà votre billet. Sur place, toutes les attractions seront ouvertes, même celles qui font peur à votre fils. Il y aura un marquage au sol pour les files d'attente. Le port du masque sera obligatoire dès 11 ans. Et dès l'entrée du parc, hein, c'est la règle en vigueur pour le moment, mais qui pourrait quand même évoluer pendant l'été. Par exemple, du côté du parc Astérix, ils ont déjà un petit peu fait évoluer la règle, hein, puisque jusque-là, ils avaient dit qu'il fallait le masque tout le temps. Mais quand on se balade dans le parc, on peut maintenant quand même ôter son masque. À Disney, tous les restaurants et les magasins, parce qu'il faut quand même bien gagner sa vie, vont être ouverts. Mais attention, si vous aimez ça, les spectacles sont annulés pour le moment, y compris le feu d'artifice.
Je comprends pas pourquoi.
Pourquoi la fameuse parade. Alors pour compenser, il y aura un petit peu plus de personnages de Disney qui vont se balader. Mickey devrait beaucoup plus se balader à la rencontre des visiteurs pour faire
des selfies. Alors, vous m'expliquez pourquoi il n'y a pas la parade, mais on peut quand même faire des selfies. Les câlins, attention, en revanche, avec Mickey. Pas de câlins, Mathieu, on ne peut pas faire de câlins ensemble.
Je note et je m'en désole. J'aimerais savoir qui est Mickey, alors, qui se cache dans Mickey. Les parcs d'attractions, vous nous le disiez, et moi, c'est une surprise pour moi, cartonne en France. On est un pays de parcs d'attractions.
Des parcs à sensations, des parcs à thème. Alors, ça va des volcans, le monde en miniature, la France médiévale, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y a aussi, bien évidemment, les parcs animaliers. Au total, on a 300 parcs de loisirs qui sont un petit peu partout en France. C'est tout simple, on est leader européen en la matière. Grosso modo, il n'y a que les États-Unis qui font mieux que nous. 60 millions de visiteurs par an. Donc c'est comme si chaque Français allait chaque année dans un parc d'attractions. 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et un parc, bien évidemment, qui écrase tout
Disney,
le monde,
ouais.
C'est Disney. Première destination touristique d'Europe. Hein, 16 millions de visiteurs. Mais vous avez plein de parcs qui cartonnent. Le Puy du Fou, je ne sais pas si vous êtes déjà allé. Hein, on est vraiment au fin fond de la Vendée. C'était un pari totalement fou. Ça cartonne. Le Futuroscope, après des années très compliquées, cartonne aussi. Ce qui est vraiment la clé de nos parcs d'attractions, et peut-être là, c'est vraiment le succès, c'est qu'ils investissent énormément. C'est-à-dire que chaque année, vous avez de nouvelles attractions et c'est vraiment la clé du succès. Je vous donne un exemple. Le Futuroscope a par exemple inauguré là, il y a quelques semaines, son premier Grand 8. C'est-à-dire que même au Futuroscope, maintenant, vous avez des sensations fortes.
Ah, c'est ce qui manquait au Futuroscope. Bah oui, des bonnes grosses sensations.
Oh, il y avait déjà des trucs
des
pas mal. Hein.
Qu'est-ce qui explique que ça fonctionne si bien chez nous?
Alors, déjà, vous allez sûrement trouver ça tout bête, mais la première raison, c'est la météo. Donc, depuis quelques années, il fait plutôt beau l'été et notamment, c'est pas toujours le cas.
En Espagne, il y a aussi une bonne météo, non?
Oui, mais vous avez moins de parcs d'attractions.
Ah oui, d'accord.
Ouais. Non, mais en tout cas, en France, ce qui explique que les parcs d'attractions se portent bien en ce moment, c'est la météo. C'est déterminant, puisqu'on va dans un parc d'attractions principalement quand il fait beau. La deuxième raison, c'est qu'on passe de plus en plus nos vacances en France. Et surtout, on fait de plus en plus de courts séjours. Et donc aujourd'hui, les parcs d'attractions sont vraiment devenus des destinations de vacances. C'est pour ça que vous avez de plus en plus d'hôtels qui s'ouvrent autour des parcs d'attractions. Et puis, alors, c'était vrai ces dernières années, on va voir si c'est encore le cas cet été. Les gens, notamment après les attentats, après tout ça, ont eu envie de se retrouver ensemble, de passer des moments joyeux. On va voir si l'après-Covid ouvre également cette période, si on a envie finalement de se retrouver dans un cercle que l'on connaît. Et donc à ce moment-là, les parcs d'attractions pourraient également en profiter.
Dorothée Gibert, vous avez le droit de faire Space Mountain ou contractuellement, il y a certaines choses que vous n'avez pas le droit de faire, des choses dangereuses.
On va parler
pas
sur peut-être
pas très très dangereux, mais certains sports, certaines activités.
Je pense qu'on n'est pas suffisamment bien payé pour qu'ils nous interdisent de faire des choses. Contractuellement, on a le droit, on peut tout faire.
Ouais.
Mais ça, c'est très étonnant.
Rien n'est interdit.
Je crois que les joueurs de foot, ils ne peuvent pas faire.
Mais oui, mais on n'a pas les mêmes
salaires.
Oui,
vous n'avez pas les mêmes salaires, mais l'enjeu est aussi énorme. Si
l'enjeu est aussi énorme. Mais après, c'est notre propre responsabilité. C'est-à-dire que moi, j'ai arrêté de faire du ski. J'en faisais des pistes noires à l'âge de 9 ans, 10 ans. Et j'ai arrêté le ski parce que si je me pète les ligaments croisés, c'est un an et demi d'arrêt.
Et ben voilà, 42 ans. Retour au ski.
Voilà, mais je me le dis, bien sûr, avec plaisir. Je vais être trop contente.
Merci Emmanuel Dutail pour cette petite parenthèse enfantine.
Mais pas du tout.
Je voulais juste vous relancer là-dessus parce que on met une petite pièce dans la machine et c'est reparti.
Europe 1.
Une journaliste talentueuse en face à face avec une personnalité.
Tout de suite de
présenter,
voilà.
Attends, il y a de la jalousie dans l'air.
Sauf qu'il y a une vanne derrière Dutail.
Bah oui, mais ça part trop bien.
Mais non, regarde, écoute bien. Une journaliste talentueuse en face à face avec une personnalité pour une interview sans concession. C'est 7 sur 7 avec Anne Sinclair. Aujourd'hui, c'est 2,5 sur 7 avec Emma Rock, qui chaque jour vers 17h20 pose à notre invité les questions que je n'ose pas lui poser moi, comme hier avec Benabar.
L'histoire du micro-pénis, c'est faux, merde!
L'interview cast Emma Rock, c'est juste après. N'attendons pas, viens sur Europe 1.
L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Si elle n'avait pas été journaliste, elle aurait pu être chauffeuse de salle, voire chauffeuse tout court. Chaque jour, Emma Rock m'aide à instaurer avec l'invité un lien particulier, parfois même très particulier, comme hier avec Benabar.
Je ne suis pas encore divorcé, mais la journée n'est pas terminée. Surtout dès que tu me fais des clins d'œil depuis tout à l'heure, donc Dev.
J'ai une paupière qui clignote, hein, vous m'excusez. Hein.
Bon, alors aujourd'hui,
c'est marrant qu'il me dise ça.
Oui, 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 une paupière qui clignote,
mais
bien sûr. Bien sûr. Alors, avec notre invitée, la danseuse étoile Dorothée Gilbert, s'il vous plaît, moins de clins d'œil, plus de questions.
Oui. Non, il y a un chapitre qui m'a particulièrement intéressée dans votre livre qui s'appelle « L'abandon ». Enfin, abandon plus clairement. Vous revenez sur la part de technique et la part d'interprétation quand vous dansez. Et la place des émotions aussi qui est très importante à vos yeux. Qu'est-ce qui vous fait accepter un rôle ou pas? C'est justement l'aspect technique ou c'est au contraire ce que vous allez pouvoir mettre comme émotion dans le personnage?
Moi, ce qui me plaît le plus, c'est interpréter des personnages. Donc ça va être qu'est-ce que le rôle a à raconter, quelle va être la puissance du personnage.
Mais alors, c'est comme au cinéma, c'est-à-dire que vous avez un agent qui vous dit, voilà, vous avez reçu tant de propositions pour tant de rôles et vous choisissez, ou c'est pas du tout comme
pas
ça.
Du tout. Non, c'est-à-dire qu'en fait, c'est le directeur de la directrice ou le directeur de l'opéra qui choisit les ballets qui sont donnés à l'opéra, qui choisit qui va danser les ballets, avec qui, pour combien de spectacles.
Il n'y a pas du tout de démocratie interne dans l'opéra de Paris, c'est le choix vient d'en haut. D'accord,
il n'y en a pas trop.
Mais vous pouvez refuser un rôle?
Oui, on peut dire si on ne se sent pas à l'aise dans un rôle, oui.
Ouais.
Mais en règle générale, non, on ne postule pas vraiment. Et de toute façon, si la directrice ou le directeur n'a pas décidé de vous mettre sur ce rôle, vous ne le saurez pas quand même.
D'accord. Et le rôle que vous avez le plus joué dans votre carrière?
Gisèle.
Et c'est le rôle que vous avez le plus aimé aussi?
Ça fait partie des rôles que j'aime le plus, avec Roméo et Juliette, Manon, Onéguine, voilà.
Que des grands rôles de romantique.
C'est ça. Des histoires d'amour tragiques.
C'est là que vous l'avez bien retrouvé. Non. Elle se raconte dans un livre magnifique intitulé « Étoile, la danseuse étoile au parcours inspirant ». Dorothée Gilbert est notre invitée jusqu'à 18h.
Europe 1.
À suivre, notre ultime concurrente du jour qui se morfond actuellement dans les profondeurs du classement. Comme elle le dit elle-même avec une bouleversante lucidité.
J'ai beaucoup parlé, j'ai peu agi.
L'heure du réveil a-t-il enfin sonné pour Virginie Fulpin? Notre éditorialiste sport tentera de nous le prouver avec un sujet au vitriol sur le tennis professionnel, de plus en plus inégalitaire selon elle.
Europe 1, l'équipée sauvage. 16h, 18h. 16h, 18h sur Europe 1, l'équipée sauvage. Mathieu Noël.
La danseuse étoile Dorothée Gilbert est notre guide cet après-midi alors qu'on découvre les coulisses de l'Opéra de Paris, une émission où l'on s'ouvre donc à la musique classique, encore trop souvent méconnue ou boudée par le grand public. Moi je vois la dernière fois que j'ai amené un pote à un concert classique.
Je connais celle-là. Si, si, je la connais, tout le monde la connaît. Mais si. Bonjour, vous êtes bien aux Assédiques de Paris? Toutes nos lignes sont actuellement occupées. Le temps d'attente est d'environ 2 ans.
Alors, j'avais oublié.
Dorothée Gilbert, c'est évidemment Omar Sy dans Intouchable. Dorothée Gilbert, on a évoqué la partie travail colossale du métier de danseuse et de danseuse étoile. On va parler de la partie sentimentale maintenant, la vie sentimentale d'une danseuse étoile. Parce que vu de loin, on s'imagine, alors c'est extrêmement glamour, on imagine une vie tout entière dédiée au glamour. C'est compliqué avec les garçons, surtout au début, quand vous n'êtes jeune, pas dans l'adolescence, quoi.
Bah oui, après je parle encore une fois de mon propre vécu, il y en a pour qui ça se passe très bien, mais c'est vrai que à l'école de danse, il y a quand même déjà pas mal de garçons qui s'intéressent pas trop aux filles, voilà, qui ont déjà choisi une autre voie. On travaille énormément. En plus, moi, je venais de Toulouse, donc mes parents, quand ils sont arrivés à Paris, ils n'avaient pas forcément d'amis sur place, donc je voyais pas d'autres personnes, on restait quand même dans un cercle assez fermé. Et donc oui, pendant toute mon adolescence, j'ai pas eu de petite amie. Alors que c'est le moment où on a justement besoin d'être rassuré par le regard de quelqu'un d'extérieur.
Mais quand même, avec tous ces contacts, là, quand on voit tous ces portées et tout ça, il doit y avoir des petites choses qui se nouent quand même, non? Non.
Bof.
Ça, c'est terriblement décevant. Parce que moi, quand vous sortez de scène, j'imagine toutes sortes de choses.
Mais vous regardez quoi comme film, vous, quand vous rentrez chez vous? C'est incroyable.
Mais
que
pas du tout. Mais vous voyez le contact physique dans la danse classique, enfin, c'est vachement
beau. Non, mais c'est sûr. Mais quand
Juliette,
on raconte des histoires, voilà, Roméo et Juliette, il y a des bisous
crois,
en scène, etc.
Crois,
non, mais
voilà,
bien sûr.
C'est bien joué.
Exactement, c'est bien joué. Après, pour la plupart, on danse avec des garçons qui n'aiment pas les filles.
J'ai une question sur la grossesse. J'ai l'impression que ça a vachement évolué dans la danse classique. À une époque, une danseuse ne pouvait pas tomber enceinte ou alors elle était écartée. Aujourd'hui, plusieurs danseuses au plus haut niveau ont eu des enfants, sont revenues.
Ouais.
C'est quelque chose qui devient... Il y a un gros changement de ce côté.
Il y a un gros changement. Encore une fois, c'est vraiment un changement à l'Opéra de Paris. Ce n'est pas pareil dans toutes les compagnies parce que nous, on a la chance d'avoir des contrats à durée indéterminée. Mais tous ceux qui sont intermittents du spectacle et qui ont des contrats à durée déterminée, c'est beaucoup plus compliqué.
Elle aussi porte le tutu admirablement. Elle est l'éditorialiste sport d'Europe 1. Que signifie éditorialiste sport? Ça signifie que contrairement à un journaliste sport normal qui se contente de donner les résultats des matchs, elle peut gueuler que le match était nul. Et aujourd'hui, Virginie Fulpin, je crois que vous allez gueuler encore. Vous m'avez l'air énervée. Que se passe-t-il? On parle tennis.
On parle tennis et on parle lutte des classes aussi parce que voilà,
camarade,
après quelques hésitations, l'US Open aura lieu à New York fin août, début septembre, mais tous les joueurs ne pourront pas y participer. Alors on savait déjà qu'entre Novak Djokovic et le 300e mondial, il y avait un petit peu plus qu'un monde d'écart. Mais là, la différence, elle se matérialise sous nos yeux. Il y a ceux qui comptent sur le circuit et puis ceux dont les organisateurs se moquent éperdument. Alors, c'est compliqué d'organiser un grand chelem en sortie de pandémie. Enfin, sortie, j'espère que je ne m'avance pas trop. Hein. Mmh. Et puis, les organisateurs de l'US Open ont planché longtemps pour savoir comment faire, trouver une solution. Ils avaient d'abord pensé à des mesures sanitaires absolument drastiques pour les joueurs, c'est-à-dire que les hôtels proches du stade seraient réservés aux participants. Les joueurs ne pourraient être accompagnés que d'une personne s'entraînent pendant tout le tournoi. Et puis leur seul déplacement, ce serait entre l'hôtel, les cours d'entraînement et les cours pour les matchs. Ils seraient testés au Covid plusieurs fois par semaine, mais les stars du circuit ont commencé à râler. Alors, il y en a qui ont râlé pour des arguments totalement audibles. Par exemple, Serena Williams, qui ne voulait pas être séparée de sa fille pendant 3 semaines. Elle a une fille qui est petite. Raphaël Nadal, lui, trouvait que l'US Open et Roland-Garros, c'était un peu trop proche. Et il privilégiait Roland-Garros, on ne peut pas trop lui en vouloir non plus. Novak Djokovic, lui, il a des arguments plus discutables. D'abord, il ne voulait pas être cantonné dans un hôtel près de l'aéroport et ne pas avoir accès à Manhattan, le pauvre. Et puis pour lui, c'était hors de question de ne voyager qu'avec une seule personne, alors qu'il a un staff beaucoup plus étoffé. Et c'est notamment là-dessus qu'on voit la différence entre lui et les autres, parce que ceux qui ne sont pas des top joueurs du circuit, ils ont l'habitude d'avoir qu'une seule personne avec eux. Ils font ça à longueur d'année, en fait. Forcément, ils trouvent que les jérémiades de Djokovic sont un petit peu exagérées. Alors, qu'a décidé l'US Open ? Surprise, les organisateurs ont écouté les stars, forcément. Donc, finalement, les joueurs peuvent résider dans des maisons individuelles dans la banlieue chic de New York avec leur famille, et ils peuvent être accompagnés de 3 personnes dans leur équipe.
Et le problème, c'est qu'en fait, donc, tout s'est décidé au détriment des joueurs les moins bien classés.
En fait, en accédant au desiderata des meilleurs mondiaux, l'US Open a fait un choix. C'est-à-dire que pour qu'il n'y ait pas trop de monde sur le site du tournoi, parce que il continue d'y avoir un danger, donc, puisqu'on accepte 3 personnes autour des meilleurs, il a fallu décider d'annuler les qualifications. Et les qualifs, vous savez, c'est ces matchs qui se déroulent la semaine précédant le tournoi et qui permettent à ceux qui sont classés au-delà de la 100e place mondiale de gagner leur place dans le tableau final. Et bien là, il n'y en aura pas. Et le problème, c'est que pour beaucoup de joueuses et de joueurs, c'est leur gagne-pain, en fait, ces qualifs dans les tournois du Grand Chelem. À longueur d'année, ils jouent des petits tournois, vous savez, des challengers où il n'y a pas grand-chose à gagner. Et là, en plus, cette année, pour arriver à équilibrer leur budget ou juste à gagner un tout petit peu d'argent, étant donné qu'ils n'ont pas pu jouer depuis le mois de mars, c'était la manière de se sauver pour eux. Et c'est raté, donc c'est forcément très difficile à avaler. Et puis en plus, l'US Open a aussi annulé le tournoi tennis fauteuil.
On voit pas où ils en étaient.
Voilà, donc vous imaginez quand même le message qu'on envoie, c'est-à-dire que soit vous êtes des stars, soit vous êtes dans les profondeurs du classement ou vous êtes handicapé et on s'en fout totalement de vous, c'est ça le message de l'US Open.
J'ai dit qu'elle allait gueuler.
Vous
savez quoi ? Moi, j'ai une idée. C'est que...
Oula.
Non, mais le gagnant qui va gagner je ne sais combien de millions de dollars, encore une fois, pour l'US Open.
Oui, c'est entre 2 et 3.
Entre 2 et 3. Eh bien, il va le donner à l'ensemble des joueurs pour répartition.
Il y a des cagnottes solidaires qui ont été mises en place de la part des joueurs de tennis. Mais en fait, le problème, c'est que pendant tout le confinement, on a lu, entendu qu'il fallait réfléchir à de nouvelles façons de faire le sport professionnel. Et puis là, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est encore pire qu'avant.
Excusez-moi Virginie, mais ça me fait penser dans ce que vous disiez tout à l'heure, Dorothée, vous disiez que vous étiez mal payé à l'Opéra de Paris. On parle des salaires invraisemblables des joueurs de tennis qui gagnent 2 à 3 millions d'euros en gagnant un tournoi. Mais quand vous dites que vous êtes mal payé, vous gagnez quoi concrètement à l'Opéra de Paris quand on est danseur étoile ? C'est-à-dire qu'on est au firmament d'une profession.
Vous
allez répondre à la question. On avait, Nathalie Dessay nous avait répondu sur les
salaires des cantatrices.
Non, mais je vais pas vous révéler de chiffres, mais il faut savoir qu'on est assimilé fonctionnaire et on est payé par le ministère de la Culture.
Directement. Et donc, tout de suite, ça ne peut pas monter trop haut.
Donc ça veut dire que vous avez une grille de salaire.
On a une grille de salaire.
D'accord.
Ça, c'est quand même étonnant. Et vous gagneriez beaucoup plus dans le privé, si j'ose dire, dans d'autres
entreprises. Bien sûr, si j'étais freelance, bien sûr, parce que quand on fait un spectacle en freelance, quand on est invité pour un gala ou quelque chose comme ça, on gagne entre 3 500 euros
pour le gala.
Excuse-moi, je sais que ça représente beaucoup d'argent, mais oui, mais.
Non, mais évidemment, c'est moins que si Djokovic va faire un tournoi d'exhibition quelque part.
Non, mais c'est ça.
Évidemment.
Lui donner pas de trop mauvaises idées parce qu'en ce moment, c'est pas une bonne idée.
Si je faisais juste 2 galas par mois, je gagnerais plus que ce que je gagne en ce moment à l'Opéra.
Et bien voilà, elle a répondu à la question. Il suffit juste de prendre votre calculette. Merci beaucoup, Dorothée Gilbert, et merci, Virginie Fulpin. Je constate, Virginie, pour le regretter, que vous refusez de serrer la main de votre rival dans cette manche.
Question de fierté, sans doute. Question de revanche, peut-être.
Ça déconne pas, hein. Oui, parfois, quand je surprends certaines conversations entre mes journalistes à la machine à café, je me dis que ce principe de compétition est en train de les rendre fous.
N'essaie pas de me baiser, mon vieux, je te fous dans un tel état qu'il faudra déboutonner ton col pour chier.
Non !
Avant que la rédaction d'Europe 1 implose, je vous propose qu'on se détende avec la recette du jour. Une recette simple et équilibrée, placée sous le signe du cru. A tout de suite pour Delice in Extremis.
Europe 1, 16h-18h, l'équipe est sauvage. L'équipe est sauvage sur Europe 1, 16h-18h, Mathieu Noël.
Vous écoutez l'équipe est sauvage, 2 heures pour rentrer chez soi, ivre de bonne humeur et complètement bourré de savoir.
Une émission toujours placée sous l'égide d'un invité d'honneur dont le rôle est d'évaluer nos journalistes et, le cas échéant, se foutre de leur gueule. De ce côté-là, Benabar, hier, a fait un sans-faute.
Moi, j'ai toujours dit un ch'touille. J'aime bien. Ça vient de quoi, ch'touille ? De chouillard ? Un chouillard ? Mais Louis Chédid était plutôt d'accord avec ce néologisme.
Tu veux dire Louis Chédid ?
Aujourd'hui, c'est la danseuse étoile Dorothée Gilbert qui nous accompagne pour son livre passionnant de plongée dans les coulisses de l'Opéra Paris et surtout plongée dans les coulisses de sa carrière, magnifique carrière. On en parlait tout à l'heure un peu hors antenne, comment va l'Opéra de Paris ? Il y a des articles qui se multiplient dans la presse, j'ai eu dans le Figaro la descente aux enfers de l'Opéra de Paris, il y a eu des grèves avant le confinement, il y a eu le confinement. C'est une situation compliquée que vous vivez en interne, qu'est-ce que vous vous dites entre vous ?
Bon, on n'a jamais vécu ça, c'est sûr. Enfin, c'est-à-dire que là, autant de spectacles annulés, c'est une catastrophe, quand même.
Et donc vous avez peu
performé, un peu dansé. Ah bah oui, bien sûr.
Et votre niveau baisse ou l'entraînement suffit à rester
Non,
au top ?
L'entraînement suffit pas. Il faut savoir que pour avoir une forme physique vraiment intéressante, ouais. il faut avoir des spectacles très régulièrement parce que plus on enchaîne les spectacles, plus notre corps est en forme, quoi. Donc c'est facile.
Pour que votre corps soit en forme, est-ce qu'il y a des règles drastiques à respecter au niveau de l'alimentation ? On imagine, est-ce que justement, on parlait de contrat tout à l'heure, est-ce que votre contrat vous empêche de vous faire un kebab sauce samouraï ?
Pas du
comme
tout.
Ça nous arrive avec Eva.
Non, pas du tout. Ah non,
vous
non,
avez le droit, mais vous le payez le lendemain, quoi, c'est ça ?
Non, pas le kebab samouraï, parce que quand on danse et qu'on fait 6 heures de répétition le lendemain, oui. on élimine le kebab.
Ouais. Ouais. Pas d'alcool en revanche.
Mais voilà, exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est que moi, quand je danse, je bois pas d'alcool, parce que en plus j'ai eu pas mal de déchirures au mollet, je me suis rendu compte que depuis que je buvais pas, eh ben, je m'en faisais plus. Donc bon, entre autres.
Mais... Et surtout ne pas boire avant la présentation. Moi, une fois j'étais vraiment et Juliette bourrée. C'est-à-dire qu'effectivement, Juliette m'a reçue en pleine gueule. Bah, bref.
Et alors, est-ce qu'à 42 ans, vous allez fêter ça avec un grand verre d'alcool ?
Mais non,
c'était la meilleure question de l'émission. La question pointue.
Mais vous en rêvez de ce verre d'alcool ?
Oui, c'est vous qui rêvez, ne transposez pas.
Dorothée, c'est pas vrai ?
Pendant les vacances, je bois. Hein.
Ah oui,
de temps en temps. Nous voilà rassurés, vous pouvez venir à la maison. Super. Dorothée Gilbert est avec nous jusqu'à 18h.
Europe 1.
On vient d'évoquer avec notre invité le plus dur dans la danse classique. Ce ne sont ni les entrechats, ni les pointes, ni les pirouettes. C'est l'obligation de bouffer du quinoa. Combien de danseurs pourtant talentueux se sont arrêtés aux portes de l'Opéra de Paris parce qu'ils se sont exclamés au beau milieu d'un entraînement ?
On va manger des chips. T'entends ? Des chips !
Parmi ces recalés caloriques, notre chroniqueur gastronomique Olivier Pouls, qui a toujours préféré la pâte à negra à la dame aux camélias. Délice in extremis, votre recette express arrive juste après une nouveauté. Tiens, signée Olysses, voici Sister sur Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1, l'équipe est sauvage. Mathieu Noël.
Je préfère vous prévenir, Dorothée Gilbert, l'individu qui arrive est plus ramen que Carmen. Plus risotto que Rigoletto, plus andouillette que Roméo et Juliette. C'est notre expert culinaire, Olivier Pouls. Bonjour Olivier.
Bonjour mes amis.
Cette semaine, il faut rappeler à nos auditeurs comment vous est venue l'idée du thème. Vous étiez nu dans votre salle de bain, votre compagne entre et vous dit...
Je te mangerai bien tout cru.
Tout
voilà,
cru.
Alors on ne vous mange pas vous.
Alors hein, c'est pas vous, voilà. On va déguster, mais des produits... De saison crue.
Ben aujourd'hui, on va déguster un tartare de veau. Et vous savez que pour la viande, il y a aussi des saisons. Il y a des saisons pour les légumes, ça.
Les saisons
va
pour
sans
les
le
veaux.
Dire.
Les veaux naissent plus.
Il y a une saison effectivement durant laquelle les vaches ont plutôt tendance à mettre bas et les veaux sont de meilleure qualité. Et la bonne saison pour manger du veau, c'est de mi-avril jusqu'à la fin du mois d'août. Même si évidemment on en trouve tout au long de la saison. Et puis c'est aussi très lié à l'alimentation de la vache qui donne son lait au veau et donc forcément. Ça impacte sur la qualité de la viande de veau.
Et alors, un tartare de veau, oui. C'est délicat, ça, pour que ça soit bon.
C'est vrai que le tartare, on a plutôt l'habitude, en ce qui concerne la viande,
de prendre du bœuf.
Mais le veau, notamment ce qu'on appelle le veau sous la mer, qui est un jeune veau, on reconnaît sa viande, elle est extrêmement blanche, hein, puisqu'il n'a mangé que le lait de sa mère. Donc, il y a vraiment une chair qui est très particulière, qui est très fine, qui est très élégante. Donc, on peut la préparer en tartare, mais on va l'assaisonner autrement qu'un tartare de bœuf. On a besoin de quelque chose d'un peu moins péchu, entre guillemets. Il faut respecter la chair. Donc, deux morceaux possibles, soit l'escalope, si on veut un tartare très moelleux.
C'est ce qu'on demande à son boucher.
Exactement. Soit l'onglet, qui est une partie qui marche aussi
un
très bien.
De veau.
Et ça donne un peu plus de mâche. Oui, bien sûr, il y a de l'onglet de veau aussi. C'est un côté un peu plus robuste, on va dire, sous la dent. Choisissez votre camp. Moi, j'aime bien avec une escalope, c'est très fondant. Alors, quelques oignons nouveaux, un trait d'huile d'olive, un petit peu de ciboulette, quelques câpres, et une toute petite pointe de moutarde. Il n'en faut pas plus pour faire un délicieux tartare de veau. Mais je vous donne, parce que vous êtes mes amis et que je suis généreux aujourd'hui,
et
une deuxième idée de recette.
Vos amis.
Et oui, une deuxième idée de recette. Un terre-mer où vous allez associer la viande de veau avec des huîtres et des algues.
Oh oui, ça c'est bien.
C'est fantastique. Pareil, on hache le veau, on le coupe au couteau, hein, toujours un tartare au couteau, pas à la machine. On le coupe en petits dés, une ou deux huîtres coupées en petits dés, on mélange tout ça, petit trait de zeste de citron, quelques algues, vous savez, qu'on peut acheter dans le commerce aujourd'hui pour assaisonner le tout, et une petite pointe de citron vert, et là vous avez un terre-mer tartare de veau. Et d'huîtres fantastiques.
Et c'est parti, voilà. Mon kiki, comme disait Bocuse. Merci beaucoup, Olivier Pouls.
Pas sûr que c'était lui.
Bah ouais, je crois.
Faudra vérifier. Ouais.
On vérifiera sur Wikipédia. Europe 1. Ils se sont battus. Ils ont redoublé d'inventivité, ils ont tout donné pour satisfaire vos oreilles curieuses et avides de culture. Alors pourquoi pas accéder au titre ultime ?
Pourquoi pas accéder jusqu'au titre d'étoile ?
Bon, non, on va pas s'emballer non plus, Dorothée Gilbert. Le titre de chroniqueur du jour, c'est plus à leur portée. A tout de suite pour la grande finale.
16h, 18h, l'équipe est sauvage sur Europe 1. L'équipe est sauvage sur Europe 1. 16h, 18h, Mathieu Noël.
Je ne vous le cache pas, en cette fin de saison, je perçois chez mes poulains comme un léger relâchement. Jadis, l'équipe est sauvage était une compétition âprement disputée, chaque journaliste était prêt à tout pour l'emporter. Il semblerait que ça ne soit plus tout à fait le cas. Certains, en tout cas comme Mathieu Charrier hier, semblent connaître une phase de démotivation.
C'est vrai que je pourrais quitter ce studio sur le champ.
Vous pourriez, mais vous perdrez vos points.
Bah, qu'est-ce qu'on a à foutre de mes points ?
Messieurs, de grâce, ressaisissons-nous. L'heure est grave, puisque c'est le moment du quitte ou double. Vous avez chacun 10 secondes pour nous expliquer pourquoi vous méritez la victoire aujourd'hui. Fred Goetz.
Écoutez, diffuser une heure de très grande écoute, la musique d'une génie, un E à génie, faut pas l'oublier, c'est quand même une preuve de goût, une marque de goût très sûre de la part du chroniqueur. Et en plus, c'est la preuve formelle, comme disait le poète, que l'avenir de l'homme est la femme.
C'est pas mal, ce petit côté féministe est assez bien joué, quoique un peu opportuniste. Anne Le Gall, pourquoi voter pour vous ce soir ?
Parce que moi, sur une scène de danse, je pense que j'ai à peu près la légèreté d'une palourde. Donc, je vais offrir une chronique aérienne à ma façon.
C'est léger, une palourde.
Mais c'est léger, une palourde. Ouais, d'un castor. Donc, je vais offrir une chronique aérienne à ma façon en parlant des étoiles et de la préservation de la nuit et de la lutte contre la pollution lumineuse.
Quand j'entends ça, je me dis qu'il nous faudrait un directeur de ballet ici. Virginie Fulpin, pourquoi voter pour vous ?
Parce que j'ai donné la parole aux 100 grades du tennis et que voilà, un sport, ça n'est pas que des stars, c'est aussi tout un tas d'autres joueurs et joueuses et je pense qu'il faut en parler de temps en temps.
Emmanuel Duteil, vous n'avez pas l'air convaincu par les arguments de Virginie Fulpin. Pourquoi voter pour vous ?
Avant même que j'ai parlé, je n'ai pas convaincu.
Oui, c'est ça qui est terrible.
Parce que moi, je tiens beaucoup à mes points. Donc je ne compte pas quitter ce studio.
Ah, ça c'est bien.
Non, plus sérieusement, parce que bon, je crois que c'était très intéressant ce que j'ai raconté. Non mais je vous dis quand je suis pas très content, et là franchement j'ai trouvé que c'était pas mal.
Eva, voyons voir si nos auditeurs ont trouvé que c'était pas mal, Emmanuel.
Mais
Duteil.
Ils étaient convaincus avant même d'écouter Virginie Fulpin de son édito.
C'est Virginie qui emporte les votes des auditeurs. Deux points pour Virginie. Alors,
c'est pas souvent.
Alors voyons voir. Moi, je vais voter aujourd'hui pour Anne Le Gall, parce que...
Merci. Ah, parce que vous êtes future mère et que vous allez demander...
C'est pour, effectivement, l'élection dans mon village normand. Ouais, je vais postuler, je vais me présenter. Ouais. Et dans mon programme, il y aura cet objectif d'être non seulement village fleuri, ce que nous sommes déjà, mais surtout village étoilé. Et ça, c'est un beau défi pour la France.
Merci. Ça va mieux, vous. Hein. Franchement, c'est...
Mais de toute façon, on s'en moque. Puisqu'ici, c'est l'invité qui tranche, in fine. Dorothée Gilbert, c'est vous qui devez désigner le grand vainqueur aujourd'hui. Pour qui allez-vous voter ?
Tadam. Je pense que c'est important de parler justement comme Virginie le disait, de ceux qui n'ont pas la parole régulièrement, parce que justement ce sont pas forcément des stars, et comme nous dans notre métier on invite souvent les danseurs étoiles, mais il y a aussi plein de danseurs dans la compagnie qui ont leur mot à dire, qui ont une carrière incroyable, et voilà, donc je pense que c'est important de dire qu'on n'est pas les seuls à exister, mais qu'il y a tout, sans eux on ne serait rien en fait.
C'est donc Virginie Fulpin qui remporte la 198e édition de l'équipe sauvage. On remercie chaudement Dorothée Gilbert qui vous fait découvrir son métier de danseuse étoile dans Étoile aux éditions du Cherche Midi. Merci Dorothée d'avoir été avec nous cet après-midi. Je remercie mes équipiers du jour, Eva Rock, Anne Le Gall, Virginie Fulpin, Fred Goetti, Emmanuel Duteil et Olivier Pouls. L'équipe sauvage revient demain 16h. Tout de suite, restez sur Europe 1. Écoutez Le Monde Changé avec Nathalie Lévy et Sébastien Crêpe pour votre grand journal du soir. Bonsoir Nathalie.
Bonsoir Mathieu et bonsoir à votre équipe sauvage. Rendez-vous demain 16h. Hein. Vous recevrez Monsieur Pierre Perret, un amoureux des mots et du bon vin. Salut Mathieu, à demain.